Laudetur Jesus Christus.
Poursuite des catéchèses ce matin du pape François lors de l'audience générale autour des vertus devant les fidèles. François s'est arrêté ce matin sur la force d'âme. Nous y revenons en détail au début de cette édition. Le calme revient au Liban après le meurtre crapuleux d'un membre chrétien des forces libanaises en Syrie. Un assassinat qui a ravivé les tensions confessionnelles au pays du Cèdre. Nous entendrons notre correspondant à Beyrouth. À l'une de ce journal également, le témoignage d'un aumônier catholique militaire dans l'est de l'Ukraine. Un soutien essentiel pour les gens qui vivent près du front. Et puis nous irons en Afrique du Sud où l'ancien président Jacob Zuma, 81 ans, n'a pas dit son dernier mot. Un tribunal a annulé l'invalidation de sa candidature aux prochaines législatives, lui permettant de se présenter sous les couleurs d'une nouvelle formation politique.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, la force d'âme a été ce matin au cœur de la catéchèse du pape François sur les vices et les vertus. Lors de l'audience générale place Saint-Pierre, le pape a insisté sur cette vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Selon le Saint-Père, il y a des ennemis intérieurs que nous devons vaincre. Le compte-rendu de Myriam Sandounou.
La force d'âme reste la plus combative des vertus, a tout d'abord déclaré le pape. Si la prudence, première des vertus cardinales, est d'abord associée à la raison de l'homme, et que la justice trouve sa place dans la volonté, la force d'âme est souvent rattachée à ce que les anciens nommaient la putti irascible, a dit François. Dans cette troisième vertu, le pape fait remarquer deux mouvements, l'un passif et l'autre actif. Dans le premier, existent des ennemis intérieurs que nous devons vaincre, l'anxiété, la peur, la culpabilité, a-t-il expliqué. Aux épreuves intérieures s'ajoutent les ennemis extérieurs, les épreuves de la vie devant lesquelles la force d'âme fait alors de nous des marins résistants qui ne se découragent pas. Cette vertu fondamentale prend au sérieux le défi du mal dans le monde. Face aux guerres, oppressions des pauvres et blessures qui saignent encore, la force nous fait réagir et crier, je cite, un non catégorique. Un chrétien sans courage qui ne plie pas ses forces au bien est un chrétien inutile, a lancé François, invitant pour terminer à redécouvrir dans l'évangile la force d'âme de Jésus et à apprendre du témoignage des saints.
Impariamola dalla testimonianza dei santi e delle sante.
Compte-rendu signé Myriam Sandounou, le pape qui, à l'issue de cette audience, a tourné une nouvelle fois ses pensées et prières vers les zones de guerre, à commencer par l'Ukraine et la Terre Sainte. François qui a également demandé de ne pas oublier la Birmanie, un pays où il s'était rendu en voyage apostolique fin novembre 2017. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, toujours sous pression. Hier, le président américain Joe Biden critiquait vertement le premier ministre israélien, estimant que la guerre conduite à Gaza était une erreur. Le président américain appelait de ses voeux à un cessez-le-feu et à l'accès total durant 6 ou 8 semaines de nourriture et de médicaments dans l'enclave palestinienne. La question de l'accès à l'aide humanitaire qui sera débattue ce mercredi devant la Cour suprême israélienne, la plus haute instance judiciaire du pays, somme le gouvernement de justifier sa politique vis-à-vis des Gazaouis. Le calme est revenu dans les régions chrétiennes du Liban après des violences perpétrées par des partisans présumés des forces libanaises contre des ressortissants syriens après l'annonce de l'assassinat par un gang de voleurs syriens d'un responsable de cette formation, Pascal Sleiman. Sa dépouille a été rapatriée de Syrie et ses funérailles seront présidées vendredi par le patriarche de l'église maronite Béchar Haraï. À Beyrouth, les précisions de notre correspondant Paul Ralifé.
De l'avis de nombreux observateurs, le Liban était à deux doigts de basculer ces dernières 48 heures dans la guerre civile. À l'origine de la montée des tensions confessionnelles, le rapt de Pascal Sleiman, retrouvé mort en Syrie et imputé par les forces libanaises au Hezbollah. L'enquête a rapidement montré que les mobiles de l'enlèvement étaient crapuleux et que les auteurs du crime sont des membres d'un gang syrien de voleurs de voitures. Les partisans des forces libanaises ont laissé éclater leur colère contre des réfugiés syriens dans la nuit de lundi à mardi. Des vidéos montrant des hommes identifiés comme des migrants syriens, battus par des partisans présumés de la formation chrétienne, ont circulé en boucle sur les réseaux sociaux. Des voitures appartenant à des Syriens ont été vandalisées et leur commerce attaqué. Devant la gravité de la situation, le patriarche Béchar Haraï a appelé à la retenue et le chef des forces libanaises a ordonné à ses partisans d'ouvrir les routes bloquées. Le parti chrétien persiste cependant à donner des motifs politiques au crime. Il estime qu'en affaiblissant l'État, le Hezbollah assume une responsabilité dans cette affaire. L'armée a allégé son déploiement dans les régions chrétiennes où les réfugiés et les déplacés syriens effrayés restent cloîtrés chez eux. La tension a baissé, mais le feu couve sous la cendre. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Un Libanais accusé d'orchestrer des transferts de fonds de l'Iran vers le Hamas a été assassiné. Le corps de Mohamed Sarour a été retrouvé ce matin non loin de Beyrouth. Il était sur la liste noire du département du Trésor américain pour faciliter des envois d'argent à la force Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens iraniens de la Révolution. Selon Washington, ces fonds étaient transférés aux brigades Ezedim El-Kassan, la branche armée du Hamas. Les élections législatives en Corée du Sud se sont déroulées ce mercredi et le scrutin s'annonce bien difficile pour le camp du président Yoon Suk-yeol. Selon des sondages sortis des urnes, le parti démocrate principal, la force d'opposition, est très largement en tête et pourrait grappiller au moins une quarantaine de sièges au Parlement. Le premier ministre japonais Fumio Kishida arrive, lui, ce mercredi aux États-Unis pour une première visite d'État. Le chef du gouvernement nippon qui doit être reçu ce soir à la Maison-Blanche par Joe Biden. États-Unis et Japon qui annoncent un renforcement de leur partenariat stratégique. Un pacte défense liant les deux pays remonte aux années 60. La Chine, elle, refuse toute pression ou critique américaine sur ses liens avec la Russie. Pékin a vertement réagi ce matin après la mise en garde des États-Unis qui menacent de tenir la Chine pour responsable si la Russie continue de progresser en Ukraine. Hier, en recevant le chef de la diplomatie russe Lavrov, le président Xi Jinping a réaffirmé son attachement aux relations sino-russes. Et dans sa guerre contre la Russie, le président ukrainien Zelensky lui demande une nouvelle fois plus d'armes. Dans un entretien au quotidien allemand Bild, il insiste notamment sur des moyens concernant la défense anti-aérienne. On reste en Ukraine avec ce témoignage d'un aumônier militaire. Le père Oleh Laniouk est basé à Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, il soutient sans relâche les populations dans les zones très proches de la ligne de front. L'aide qu'il continue d'apporter aide les gens, dit-il, à rester humains.
J'ai évacué plus de 500 personnes de zones très dangereuses où personne ne se rendait. Mais ce qui est important, c'est qu'après un an, après deux ans, je reçois de temps en temps des messages, même de personnes que je ne connais pas, et qui me disent « Vous nous avez sauvés une fois, nous nous en souvenons toujours et nous vous remercions ». Je ne sais même pas de qui viennent ces messages. Mais nous continuons à aider, à travailler dans les paroisses, à aider ceux qui sont sur la ligne de front. Par exemple, la paroisse de Verkhnyokamiansk, qui est entourée de trois côtés par les Russes. Là-bas, il y a encore nos paroissiens gréco-catholiques. Et je suis allé les voir personnellement pour leur apporter les vœux de Noël. Et puis j'y retournerai au moment de la Pâque byzantine. Je leur rendrai visite, je bénirai le pain. Cela fait déjà deux ans que ces gens ne vont plus à l'église parce que leur église a été touchée par une bombe et que pratiquement tout le village a été détruit. Ils vivent dans les sous-sols, ils ne veulent pas quitter leur village même si plusieurs fois je leur ai demandé de le faire.
Les propos recueillis par Svitlana Dukovic, notre consoeur du programme ukrainien de Radio Vatican. Partons en Afrique du Sud et cette victoire pour l'ancien président du pays, Jacob Zuma, malgré les nombreuses affaires de corruption qui pesaient sur lui, un tribunal a annulé son exclusion des prochaines élections législatives du mois de mai. À 81 ans, Zuma va donc pouvoir se représenter sous les couleurs d'un petit parti récemment créé. À Johannesburg, Joséphine Klockner.
C'est un nouveau revers pour l'ANC au pouvoir et une nouvelle victoire pour Jacob Zuma. L'ancien président, qui a décidé de faire campagne cette année pour un autre parti, le MK, pourra bien en être candidat aux élections générales du 29 mai. La commission électorale avait invalidé sa candidature fin mars, évoquant les conditions d'éligibilité prévues par la Constitution qui excluent les personnes condamnées à plus de 12 mois de prison. Or, Zuma avait été condamné en 2021 à 15 mois de prison pour outrage. Mais la justice a renversé mardi cette décision. L'avocat du parti MK avait en effet questionner la légitimité de la commission électorale à prendre cette décision et estimer que la peine finale en question n'avait été que de 3 mois, suivant une remise de peine. Le retour de Zuma, qui malgré les accusations de corruption séduit toujours un large électorat zoulou, est une menace pour l'ANC qui pourrait perdre cette année sa majorité absolue pour la première fois depuis 30 ans. Johannesburg, Joséphine Klockner pour Radio Vatican.
Et puis avant de refermer ce journal, le projet de loi sur la fin de vie arrive ce mercredi sur la table du Conseil des ministres en France. Il pourrait ouvrir pour la première fois une possible légalisation du suicide assisté ou encore de l'euthanasie. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, ce sera à 18h. Excellent après-midi.